Bien écoutez, donc ces deux jours ont démontré à la fois les possibilités que représentent ces technologies numériques pour la formation et puis toutes les transformations superficielles et profondes qui sont à l'œuvre d'une façon générale dans notre société mais également dans le monde de la formation. Alors au cœur de ces transformations, évidemment, les enseignants, pour lesquels se posent à la fois des questions autour de quelles compétences pour les enseignants d'aujourd'hui sur le numérique et puis plus largement, et puis comment faire acquérir ces compétences, donc quel accompagnement, quel cheminement pour ces enseignants. Alors, évidemment, quand on parle de compétences, il s'agit de choses qui tournent autour du numérique qu'on a évoquées et qui sont un peu concrètes autour de l'utilisation d'outils, de ressources, de dispositifs qui s'appuient sur le numérique. Mais on voit bien que au-delà, il s'agit du métier même d'enseignant qui est bousculé par le numérique, qui est interrogé par le numérique, et je pense que ça a été évoqué au cours de ces journées. À l'heure où il y a une multiplicité de sources et de modes d'information et de formation, où à la fois les informations, les expertises, les réputations circulent sur la toile, où on a parlé de co-construction, de travail collaboratif, où on s'interroge sur le rôle des pairs et le rôle des experts, quel contour pour le métier d'enseignant aujourd'hui ? Que nous allons effectivement parler de tout cela. Nous allons parler compétences, évaluation, référentiel, certification, et nous allons aussi essayer de travailler sur les évolutions, sur la conduite de ce changement, sur les évolutions et les facteurs de cette évolution. Albert-Claude Benamou a dit « mais on n'a pas attendu d'être formé pour s'emparer d'un certain nombre de choses ». J'ai entendu aussi au cours de la précédente table ronde « pour changer, il faut être gêné ». Et effectivement, qu'est-ce qui peut se passer au niveau des enseignants ou d'un système éducatif pour changer, donc pour être un peu gêné ? Comment est-ce que on accompagne? Monsieur Tiemtoré a dit comment convaincre les sceptiques. Donc, avec des ressources, puisque Sankore essaye de mettre en place un certain nombre de ressources, de tutoriels, de mettre en place en co-construction, on l'a bien dit, des questions d'accompagnement local, national, international, à distance, en auto-formation, donc tout un tas de questions que vous connaissez, bien entendu, bon, les uns et les autres. Et puis, on a évoqué à plusieurs reprises, notamment au cours de la table ronde précédente, la question de la contextualisation, c'est-à-dire pour travailler avec les enseignants, quels qu'ils soient, ailleurs, mais aussi en France, qu'est-ce que ça veut dire de contextualiser effectivement cet accompagnement autour de cet accompagnement, c'est là peut-être que la contextualisation est la plus importante. Donc, je crois que ces deux journées montrent que il faut à la fois être ambitieux, c'est-à-dire voir loin, et modeste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger la politique des petits pas, y compris en ce qui concerne les enseignants. Alors, je représente ici l'enseignement supérieur, qui est concerné au moins à un triple titre, puisque il y a le lien avec la recherche, on en a parlé à d'autres moments donc bon du séminaire, et puis c'est donc dans l'enseignement supérieur que s'effectue la formation initiale des enseignants, et puis il s'agit aussi de la formation des enseignants du supérieur. Ces deux derniers points étant liés, puisque on sait bien que on enseigne aussi comme on a appris. Donc il est très important que ce soit l'ensemble de ces systèmes, donc à la fois scolaires et enseignants, qui avancent ensemble. Voilà, donc je passe la parole à Patrick.
Merci Madame Danon pour cet éclairage depuis l'enseignement supérieur. En ce qui me concerne, c'est depuis le CNDP, le Centre national de documentation pédagogique, je m'adresse à vous et je pense que c'est à ce titre-là que l'on m'a demandé d'être parmi vous. C'est un établissement qui a opéré sa conversion numérique. Et ce n'est pas si fréquent que cela de voir un établissement en quelques années qui, par la technique des petits pas, certes, de proche en proche, a basculé au point qu'aujourd'hui, dans l'édition des ressources numériques, plus de la moitié sont des ressources numériques, avec des degrés différents dans le numérique, avec des ressources qui sont parfois assez étroitement tirées de l'imprimé, dans d'autres cas, beaucoup plus fortement interactives. Mais la conversion numérique s'est faite par un effort sur soi. Et s'agissant du thème de la table ronde, former les enseignants à un nouveau métier, on peut effectivement se poser une série de questions. Les enseignants, par tradition, sont d'anciens bons élèves, et donc ils véhiculent le modèle, le prototype du bon élève, par définition. Hein, c'est le principe, en général. Lorsque on regarde les choses, comment elles se passent aujourd'hui, on peut se demander si l'élève, comme l'enseignant, et si les deux en interaction, ne sont pas complètement chahutés, bousculés par l'irruption des technologies numériques. Et au-delà de la question des outils, il s'agit de la manière d'apprendre. Je fais référence aux travaux de Monsieur Mathias, inspecteur général, dans une publication récente qui disait que le modèle aujourd'hui du bon élève, c'est le hacker, curieusement. C'est-à-dire le hacker qui n'est plus une sorte de voyou, de pirate, d'homme des marges, mais qui devient en quelque sorte l'élément qui est valorisé. Et il y a une sorte de changement d'organisation des valeurs, dans la manière d'apprendre, et cette évolution percute et a des répercussions sur l'ensemble des processus d'apprentissage. Donc on peut se demander si par ricochet, l'enseignant lui-même n'est pas interpellé dans sa manière d'apprendre son métier. Vous le savez, il y a un référentiel du métier d'enseignant, il y a un certain nombre de compétences qui sont bien identifiées, qui sont publiées, qui servent de table de la loi pour exercer le métier d'enseignant, parmi lesquels il y a notamment la maîtrise des outils numériques. Mais on peut se demander si, au-delà de cette première approche, il n'y a pas une dynamique d'une autre nature qui se met en place du côté du fait du numérique. Ne serait-ce que parce que le numérique place l'enseignant et l'élève dans un monde en réseau, dans un monde réticulé où, effectivement, l'accès aux connaissances est complètement transformé et la place du médiateur, la place de l'enseignant ne peut plus être la même. Alors, voilà à grands traits un peu l'événement qui se produit sous nos yeux en ce moment, cette modification profonde de la manière d'apprendre, ce positionnement nouveau de l'enseignant confronté à d'autres manières d'enseigner et pour l'élève d'autres manières d'apprendre. Et je crois que la table ronde va essayer d'esquisser au moins deux niveaux de réponse, des réponses en termes de compétences et des réponses en termes de méthode et d'organisation. Parce que ce qui compte, c'est bien entendu d'extraire ce qui est transférable, c'est-à-dire de prendre non pas ce qui est subjectivement intéressant, mais d'extraire quelques idées qui peuvent ensuite essaimer et féconder des processus de formation. Voilà. Donc nous allons peut-être passer au premier intervenant.
Donc nous allons demander donc à Claude Bertrand.
Voilà. Merci beaucoup. Donc quelles compétences numériques, alors, formateur entendu donc au sens large, formateur, enseignant. Donc, premièrement, je vais essayer de voir un petit peu pourquoi s'intéresser à cette question de compétences dites numériques des formateurs. Alors bon, le discours, bon, que vous connaissez très bien, aujourd'hui, l'acte pédagogique, quel qu'il soit, ne peut pas ignorer les technologies. Bon, pendant ces deux jours, on en a abondamment parlé. Ces discours-là, vous les connaissez. Les technologies se diffusent. Les technologies sont porteurs, ont des potentialités qu'il convient d'exploiter pour l'enseigner et pour apprendre. Et les institutions d'éducation, je dirais, que ce soit les écoles, les universités ou les établissements d'enseignement professionnel, de toute façon, deviennent eux-mêmes de plus en plus numériques. Hein, donc, quelque part. Donc, la question, en fait, c'est les enseignants doivent intégrer, alors je mets des guillemets parce que le terme d'intégration est à interroger, quoi, mais doivent intégrer les technologies. Alors, on peut interroger l'impératif et on peut interroger aussi le terme d'intégration. Quoi. Donc, c'est un petit peu ce que je vais essayer de développer. Alors, la question des compétences numériques, alors c'est une question qui n'est pas franco-française, qui est largement partagée à l'international. Je vous cite deux exemples. Hein, un extrait d'un rapport de la Commission européenne, donc de 2010, hein, sur éducation et formation, donc qui pointe bien l'idée que les enseignants aujourd'hui doivent maîtriser certains types de compétences liées donc aux technologies numériques. Je cite aussi le référentiel de l'UNESCO qui vient d'être mis à jour ces derniers temps. Voilà. Donc, on a bien au niveau international une préoccupation sur ce que doivent maîtriser les formateurs en matière de technologie numérique pour mieux enseigner et pour mieux faire apprendre. Alors, en France, donc, comment les choses sont mises en place? Donc, après, je vais un petit peu essayer d'entrer dans le détail. Bon, simplement, le choix qui a été fait depuis 2002, c'est en fait d'inscrire cette préoccupation de compétences numériques dans une politique générale de certification de compétences numériques. Cette politique, en fait, est basée sur, bon, à l'université, ce qu'on appelle le certificat informatique Internet, le C2I. En fait, c'est un continuum qui a démarré dès l'école primaire. Ça, il y a eu l'idée, en fait, de dire les élèves aujourd'hui à l'école primaire, dans les collèges, dans les lycées, doivent maîtriser certains types de compétences. Donc, il faut bien les repérer. Donc, on a créé ce qu'on a appelé le brevet informatique Internet, le B2I. Et donc, cette certification universitaire C2I est venue dans la continuité de ces B2I. Voilà. Ce type d'approche, donc politique de certification de compétences numériques, bon, avant de voir un petit peu ce que peut recouvrir le terme de compétences numériques, cette politique de certification, en fait, impose trois temps, quoi. Premièrement, ça veut dire se donner les moyens de définir et de décrire ce que peuvent être ces compétences. Donc, ça veut dire, en fait, essayer d'élaborer des référentiels partagés, diffusés, référentiels de compétences, donc qui explicitent un petit peu les attendus pour un certain type de public. Derrière ce type de référentiel, derrière cette élaboration donc cet affichage de compétences, se pose la question évidemment de l'acquisition de ces compétences. C'est-à-dire on affiche une liste de compétences devant être acquises pour exercer certains types d'activités. Derrière, il faut donc se préoccuper du mode d'acquisition de ces compétences et donc se pose le problème de la formation. Et tout à l'heure, quelqu'un disait de l'UNS Yaoundé, de l'ingénierie de formation quelque part. C'est comment finalement fait-on pour faire acquérir ces compétences, et donc derrière se pose la problème du dispositif, des modes de formation, etc. Donc je ne vais pas entrer sur cette question-là, je pense que les interventions ensuite aborderont cette question-là. Et le troisième temps, qui est un peu plus original, c'est la question finalement de la reconnaissance sociale de l'acquisition de ces compétences. C'est-à-dire la question de ce qu'on appelle la certification, c'est comment finalement reconnaître que des acteurs ont acquis des compétences affichées dans des référentiels. Voilà. Donc, et c'est donc cette idée de certification et donc qui a présidé à la création de certificats universitaires, donc délivrés par les universitaires, qui témoignent justement de ces compétences-là. Alors, en fait, le dispositif de certification est beaucoup plus large que ce qui concerne les enseignants. Je ne vais pas entrer dans le détail. En fait, c'est un dispositif assez large qui concerne d'une part, alors, à l'université, donc, les compétences numériques pour des étudiants et donc pour des compétences pour mieux apprendre, on va dire les choses comme ça, c'est-à-dire comment faire en sorte que des étudiants deviennent autonomes dans leur activité d'apprentissage à l'université. Donc il y a l'idée quand même de repérer les compétences nécessaires pour ça. Et ensuite, il y a des compétences plus professionnelles, c'est-à-dire qui sont plus orientées vers des métiers. Donc, on a créé certains types de C2I, santé, droit, métiers d'environnement durable, ingénieur, etc. Et parmi ces spécialités professionnelles, il y en a une très particulière qui est justement une certification enseignant. Donc, le métier de l'enseignant. Alors, je prends simplement pour dire ce qu'il en est de cette certification-là. Je pense que le fait d'afficher une approche, une entrée par compétence et une approche par certification, je pense que a provoqué un changement de perspective. C'est-à-dire que jusqu'à présent, et encore maintenant, on parle beaucoup on parle beaucoup d'usage personnel. C'est-à-dire qu'on demande aux enseignants, par exemple, d'utiliser les technologies et de fait, ça participe de leur liberté pédagogique, libre à eux de les utiliser ou de ne pas les utiliser, c'est de leur responsabilité. Le renversement qu'il y a eu, c'est de considérer que, finalement, ces compétences numériques qui sont référées par ce certificat participent des compétences d'un métier, qui est le métier d'enseignant, donc qui sont liées à une pratique professionnelle. Alors, tout à l'heure, Alain parlait du rapport 1-10-100, donc on ne s'intéresse pas ni au 1 ni au 10, c'est-à-dire ni au pionnier, mais en fait, on s'intéresse au 100, c'est-à-dire comment faire en sorte que toute une profession puisse acquérir les compétences professionnelles nécessaires à leur métier, et donc, dans ce cas-là, en s'appuyant sur le numérique. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce qu'atteste, je veux dire, ce certificat. Il parle de compétences professionnelles et il parle de compétences communes et nécessaires à tous les enseignants et formateurs. Alors, ce C2I, il a été créé en 2004. Bon, il n'est pas nouveau. Hein. Il y a eu 50 000 certificats qui ont déjà été délivrés. Donc, on a une histoire derrière ce certificat-là. Il y a un nouveau texte réglementaire qui élargit les publics. On considère aujourd'hui que finalement, on va s'adresser à des enseignants. Alors, jusqu'à présent, on s'adressait à des enseignants de l'enseignement primaire, des enseignants de l'enseignement secondaire. Il y a cette idée aussi que finalement, le métier d'enseignant, et donc, on va dire le métier de formateur, c'est-à-dire construire des situations d'apprentissage, finalement, ça se trouve aussi ailleurs. Ça se trouve aussi à l'université. C'est-à-dire que les anciens chercheurs, ils sont chercheurs, mais ils sont aussi enseignants. Et donc, ils sont là pour transmettre, faire construire des compétences à des étudiants. On s'intéresse aussi à des formateurs de formation professionnelle, des formateurs d'adultes, qui, là aussi, vont devoir construire des situations pédagogiques. Et donc, finalement, il y a eu cette idée d'élargir cette certification à ces publics-là. Alors, compétences numériques professionnelles, alors simplement, pour dire comment ça a été pensé, mais je vais aller très vite parce qu'on n'a pas le temps. Simplement, je rappelle le triangle pédagogique un peu augmenté, quoi. Un enseignant est là pour construire des situations pédagogiques, des situations d'apprentissage. Il doit pour faire acquérir à des élèves, à des apprenants, des savoirs, des savoir-faire, etc. Pour ça, il s'appuie sur des dispositifs. Donc, ça veut dire que le numérique là-dedans doit avoir sa place. On peut donner des exemples. Mais par ailleurs, cet enseignant-là, il n'est pas tout seul. Les enseignants ne sont pas des professions libérales. Hein. Ils sont inscrits dans des dispositifs plus larges, dans des collectifs, dans des communautés professionnelles, etc. Et donc, l'idée, c'est que les compétences professionnelles qui sont repérées par ce certificat-là doivent prendre en compte un petit peu ces dimensions-là. Voilà. Alors les compétences, je ne donne pas de définition. Hein, donc l'idée d'une compétence, ce ne sont pas des savoir-faire. L'idée d'une compétence, ce sont des savoir-agir en situation. Il y a aussi l'idée, alors pourquoi des compétences numériques? Alors je parle de compétences professionnelles, mais pourquoi des compétences numériques? Finalement, on pourrait considérer que les enseignants ont leurs compétences professionnelles liées à la pédagogie, liées à leur capacité à construire des situations d'apprentissage adéquates à des populations d'apprenants. Et finalement, pourquoi se préoccuper des perturbations qui peuvent être apportées par l'introduction des outils numériques? Alors, il y a quand même cette idée-là que dès qu'on met des outils numériques, des technologies numériques, ces outils sont pas neutres. Ils modifient beaucoup de choses. Ils modifient, les situations, ils modifient le rapport qu'ont les apprenants au savoir, ils modifient les problèmes de communication entre l'enseignant et les élèves, entre les élèves entre eux, etc. Donc, il y a quand même à prendre en compte cet aspect-là, c'est-à-dire à la fois le pouvoir d'agir qu'apportent les technologies numériques, mais aussi les contraintes qui viennent avec. Hein. On a un tableau numérique, on voit bien que utiliser le tableau numérique dans une situation d'apprentissage, je dirais, ça augmente le pouvoir d'agir de l'enseignant, ça augmente les potentialités d'apprentissage des élèves, mais en même temps, ça apporte son lot de contraintes qu'il faut prendre en compte en termes de compétences. Et donc, il y a cette idée-là de compétences particulières qu'on a repérées dans des référentiels pour ça. Donc, qui ne se réduisent pas à des savoir-faire, à de pure utilisation d'outils. Hein, parce qu'on pourrait considérer que d'une part, il y a les outils, on apprend à utiliser ces technologies. D'autre part, on apprend à, on devient un expert en pédagogie et puis après, les choses vont de soi. Pas tout à fait. C'est-à-dire que introduire les outils, ça modifie aussi les questions de pédagogie. Voilà. Donc simplement, bon, je vous rappelle, bon, ça modifie beaucoup de choses. Le rapport au savoir, évidemment, dans le triangle pédagogique est modifié. On ne travaille pas de la même façon dans une bibliothèque, sur Internet, ou même dans la construction du savoir. Hein. Je vous rappelle, il y a des wikis, par exemple, particuliers qui permettent de construire collectivement des savoirs. Les apprenants, évidemment, sont modifiés. Aujourd'hui, on parle de génération Y, etc. On voit bien que les apprenants, eux-mêmes, ont une culture qui n'est pas la même que ce qu'ils pouvaient avoir il y a 20 ans. Donc, il faut prendre en compte, évidemment. On peut pas ignorer. Évidemment, l'environnement dans lequel travaillent les formateurs est modifié aussi. Évidemment, est modifié. Bon, on ne travaille pas de la même façon avec un TBI qu'avec un tableau noir. On ne travaille pas de la même façon sur les environnements numériques de travail, comme on travaille de la même façon dans un collège. Évidemment, on peut travailler à distance. Bon, l'activité pédagogique à distance n'est pas la même que l'activité en classe. Voilà. Bon, sans parler, évidemment, de toutes les technologies dites Web 2.0 qui deviennent de fait des outils au service de l'enseignement et de l'apprentissage. Voilà. Donc, les compétences numériques, alors bon, je terminerai là-dessus puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Simplement, c'est de dire, donc, on a eu besoin de repérer ces compétences numériques, mais en termes professionnels. Donc, ce sont des compétences professionnelles, mais qui sont liées à la prise en compte des outils numériques dans les situations d'apprentissage. Donc, on les considère comme des sous-ensembles des compétences professionnelles déjà là. Donc, voilà. On les distingue parce qu'on considère qu'on a besoin de les distinguer aujourd'hui. Monsieur, je ne veux pas redire ça. Et donc, derrière ces compétences-là, on a différentes choses. On a des savoirs, évidemment, juridiques, techniques, didactiques. On a aussi des attitudes. Hein. On travaille en réseau, hein, des choses comme ça. Se former tout au long de sa vie, etc. Et derrière, évidemment, on a des savoir-faire. Et comme dit Pernou, on a des savoir-y-faire. Quoi, hein. C'est-à-dire comment faire les choses ensemble. Voilà. Voilà, donc voilà un petit peu cette idée donc de référentiel. Bon, le référentiel, alors bon, je ne vais pas le détailler, bon, je resterai là. Simplement, il y a donc le référentiel qui est repéré par ce certificat donc informatique internet pour les enseignants, enfin pour les formateurs. Donc, on prend donc un blog lié directement à la pédagogie, concevoir des situations d'apprentissage, conduire des situations d'apprentissage, évaluer l'activité des apprenants. Il y a aussi un aspect qui est lié à la responsabilité, alors responsabilité naturelle des formateurs, des enseignants, mais qui est modifiée par l'introduction des outils numériques. Hein. Il y a des questions particulières de responsabilité qui sont induites par l'introduction du numérique. Il y a évidemment une modification importante qui est générée par ces outils-là, le travail en réseau. Travail en réseau des enseignants, des formateurs entre eux. Travail en réseau des élèves, c'est-à-dire modification des situations d'apprentissage des élèves en leur proposant des situations de travail dites en réseau ou de communauté d'apprentissage. Il y a évidemment l'environnement des compétences liées à l'appropriation de l'environnement socio-technique dans lequel s'inscrivent des situations et qui est modifié avec les ENT, avec les réseaux sociaux, etc. Et enfin, il y a l'idée qu'un enseignant aujourd'hui est formé, mais en fait doit continuer à se former, doit se préoccuper dans la continuité de son développement professionnel. Et donc, il y a les compétences nécessaires pour continuer à se former. Voilà, je vais peut-être arrêter là, parce qu'on n'aura pas de temps là-dessus.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qui vient d'être dit?
Merci. François Boquet, Université Lyon 1 et Diéna. Claude n'a pas eu le temps d'insister dans le détail sur le référentiel, mais il y a vraiment quelque chose que sur lequel je veux insister. Qui concerne des questions qui ont été abordées dans la journée et hier, qui est comment... Alors, je vais vous dire quand même le contenu précis. C'est en relatif au développement des compétences tout au long de la vie, des formations tout au long de la vie. Et en particulier, il y en a deux qui impactent directement notre réflexion. Se référer à des travaux de recherche liant savoir, apprentissage et TIS. Donc, ça colle pleinement à ce qui était dit ce matin dans le détail. Alors, peut-être qu'ils sont là, mais vu que tu n'as pas eu le temps de les dire... Je le vois pas directement. Oui, si, on le voit en bas. Et puis l'autre concernant la veille donc toutes les techniques et méthodes de veille par l'ensemble des dispositifs qui sont à notre disposition en tant qu'enseignants. Et ça, c'est aussi autour des réseaux d'échange à l'international, à l'occasion de projets, à l'occasion d'opérations diverses. Et moi, j'y rajouterais cette capacité à contribuer à des contenus et à proposer des contenus qui sont mutualisés entre enseignants dans différentes thématiques. Alors tout ça, ça existe hein, dans le référentiel, mais je pense que ça fait vraiment... On est en plein dans le mille de tout ce qu'on a échangé depuis deux jours. Et ces compétences-là en particulier sont vraiment à mettre en avant, à travailler, et pas seulement au niveau de la certification qui est essentiellement aujourd'hui lieu en formation initiale, mais également dans toutes les stratégies de formation continue et d'accompagnement qu'on peut mettre en place. Je crois que c'est vraiment très important.
Bon, je ne vais pas détailler le référentiel. L'idée d'un référentiel, c'est quelque chose qui reste quand même très, très général, quoi. L'idée d'un référentiel, c'est quand même de donner un cadre. Premièrement, donner un cadre. Deuxièmement, donner un cadre partagé, c'est-à-dire finalement communiquer, donc partagé par tous. Et dans ce cas-là, donc par toute une profession, je dirais que ce soit les enseignants du primaire, du secondaire, du supérieur ou formation professionnelle. Et ça permet de donner un cadre. Alors là, on a affaire en fait à un référentiel de compétences professionnelles, on va dire un référentiel orienté métier. Mais évidemment, l'intérêt d'un tel référentiel, c'est qu'il permet ensuite de penser les formations. C'est-à-dire que lorsqu'on a besoin de construire des formations, de construire l'accompagnement des enseignants, je dirais ces référentiels-là peuvent servir de cadre à l'ingénierie, justement. Ça donne un cadre pour l'ingénierie de formation.
D'autres questions ? Alors peut-être qu'on peut demander à Louise Sauvé s'il y a ce même type de référentiel donc au Canada, au Québec, et donc de nous parler des obstacles, des difficultés et des solutions qui sont trouvées à la fois en termes de compétences, d'accompagnement et d'entourage des enseignants.
Alors, je remercie les organisateurs de me recevoir et de vous permettre de vous parler un peu des expériences que nous vivons au Québec. Alors, nous avons une petite interruption, mais qui est tout à fait normale lorsqu'on enseigne en présentiel. Donc, je vais essayer de parler des formateurs, mais je vais vraiment particulariser parce que l'objectif que nous avions dans les 5 dernières années de cette recherche de développement que nous avons fait, c'était d'initier, dans le fond, les formateurs à la formation en ligne. Alors, donc, et aussi aux technologies web. Alors, pour nous, c'est un peu différent, c'est comme un peu plus que les technologies de l'information et des communications éducatives. Donc, je voulais un peu vous parler sur cet aspect. La téléuniversité, je suis professeure en technologie éducative à la téléuniversité. La téléuniversité est une institution universitaire de formation à distance qui ne délivre sa formation uniquement à distance et qui travaille avec entre 20 et 25 000 étudiants à travers le Québec, le Canada et à travers le monde, mais uniquement francophone. Et nous travaillons aussi avec nos militaires qui sont partout à travers le monde et qui veulent suivre des formations universitaires en français. Et mon bureau, si vous voyez à l'écran, il est au deuxième étage et j'ai une très belle vue sur le jardin. J'adore. Alors, peut-être juste pour vous parler rapidement de ce que c'est notre notion de formation en ligne, juste pour qu'on ait le même vocabulaire, je vais le faire très rapidement. Donc, la spécificité, c'est l'utilisation d'Internet et de ces technologies web. Et je devrais dire aller même plus loin, sans téléchargement sur aucune application. Donc, tout est totalement web. Et vous allez savoir pourquoi, parce que c'est une demande de nos enseignants. Et la communication entre l'enseignant, l'étudiant et entre les étudiants se fait grâce aux outils web de communication synchrone et asynchrone. Et là encore, ils nous ont demandé sans téléchargement. Alors, pour un peu parler de ce que c'est la formation en ligne telle qu'on la vit aussi à la téléuniversité, mais dans beaucoup d'endroits, c'est qu'on a des formations synchrones, ce qu'on retrouve de plus en plus dans les universités traditionnelles, où les fonctions d'enseignement et d'apprentissage et de support à l'apprentissage se réalisent en temps réel grâce à des technologies comme la visioconférence, que l'on distingue de la vidéoconférence parce que la visioconférence, on rejoint les gens chez eux et non pas dans des salles. La formation asynchrone, qui est une formation qui se réalise dans des temps différés, à la fonction d'apprentissage et de support. Et là, on va parler d'équipe pédagogique qui va travailler avec des enseignants pour développer cette formation que l'on dit asynchrone. Et de plus en plus, on voit ce qu'on appelle une formation mixte, où on intègre les technologies web synchrones avec les technologies web asynchrones pour offrir une formation diversifiée en fonction de chaque apprenant. Ce qu'on constate aussi, qu'est-ce que c'est les technologies web de la formation en ligne? Il y a une évolution, on en tient compte, parce que dans les 5 années où on a interrogé nos enseignants, ils nous ont parlé des outils qu'ils souhaitaient utiliser ou les outils qui sont existants et qui commencent à s'intégrer dans leur pratique. Donc, au niveau du synchrome, la visioconférence, et en général, à cette époque-là, on parlait d'exposé magistral et on voulait apprendre à savoir comment faire un bon PowerPoint. Les matériels en format PDF, les notes de cours, est-ce que ces notes de cours-là doivent être un peu plus travaillées que nos notes de cours qu'on doit mettre dans la salle, surtout si nos étudiants sont à distance et non pas en contact avec nous? Et les plateformes utilisées, bon, qu'est-ce que c'est un LMS? Tout le monde en parle, mais personne n'explique ce que ça veut dire. Donc, la gestion des objets d'apprentissage, les courriels et le forum, parce que on réalisait que quand on demandait aux enseignants quels sont les outils technologiques que vous utilisez le plus dans votre classe, chez vous ou auprès de vos étudiants, et ce qui revenait souvent, c'est le traitement de texte et le courriel. Alors, le temps passé, on a eu une petite évolution au niveau des institutions. On a commencé à faire du en ligne mix. Alors, de la visioconférence et du travail collaboratif. Au début, la visioconférence était de l'exposé magistral. Maintenant, la visioconférence, on parle d'approche par travail d'équipe, on parle d'études de cas, on parle de jeux multijoueurs, on parle de simulation. Donc, de plus en plus du travail collaboratif, la communauté de pratique et d'apprentissage, les plateformes maintenant, les LCMS, parce que c'est un besoin de plus en plus criant des enseignants qui ont besoin d'outils de conception de contenu en ligne. On offre beaucoup d'outils de gestion de ces contenus, mais pas des outils de conception. Les enseignants en ont besoin. Le clavardage, qui est devenu un outil de temps réel. Les messageries instantanées qu'ils ont adorées et qu'ils ont adoptées. Et naturellement, le courriel, qui reste toujours un outil important. Et tranquillement, on s'en va vers le web 2.0 depuis quelques années. Donc, les technologies de réseau sont très importantes pour eux. On commence à de plus en plus à les intégrer. Ils souhaitent l'avoir. Une des technologies qu'on parle beaucoup chez nous, c'est le portfolio d'apprentissage, pas le portfolio professionnel, mais celui où l'étudiant va aller chercher au fur et à mesure dans chacun de ses cours, va être capable de récupérer toutes les traces qu'il va faire dans ce cours et qu'il puisse après le télécharger dans son environnement personnel. Et naturellement, est-ce qu'on peut tout faire ça dans les technologies mobiles, surtout lorsque les enseignants arrivent tous avec leur tablette? Donc, les obstacles, les résistances face aux technologies web. Nos répondants depuis les 5 dernières années, ce sont des enseignants de différents ordres qui viennent du primaire à l'université, des formateurs en milieu de travail, en milieu communautaire, qui sont, au moment où ils ont répondu à notre instrument de mesure, des personnes qui ont été sollicitées ou affectées pour soutenir le développement de la formation en ligne dans leur établissement, et ils se sont sentis très anxieux à ce moment-là. Le profil de ces personnes-là passe de l'analphabet numérique au praticien passionné. Donc, qu'est-ce que vous me donnez tout de suite pour que je puisse être disponible demain matin pour faire ce qu'il y a à faire? Et l'instrument de mesure qu'on a utilisé, parce qu'on souhaitait vraiment aller chercher le plus d'informations et de données possibles, c'est un instrument de mesure fragmenté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous prenez 2 minutes pour répondre à quelques questions, et c'est comme du marketing viral. Plus je réponds, plus j'ai envie de répondre. Alors, on sollicitait de façon, à partir du moment que le professeur avait rempli le premier 2 minutes, on le sollicitait de façon personnalisée à peu près à toutes les semaines, 2 semaines, et on a eu 97% des enseignants qui ont rempli la première partie du questionnaire, qui ont rempli l'ensemble du questionnaire. Donc, c'est assez phénoménal. Alors, je vous le recommande comme instrument de mesure pour aller collecter des données. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Et ça évolue. Hein? Alors, ce que je vous représente, c'est l'ensemble de ce qui ressort de façon majeure de toute cette enquête. C'est des changements technologiques de plus en plus rapides. Alors, ils se sentent vraiment essoufflés. On a parlé de Web 1.0, on parle du Web 2.0, on parle de technologie mobile, puis on parle de réseaux sociaux. La résistance technologique au changement technologique. Écoutez, ça allait tellement bien avec mon Word 7.0, puis là, je suis rendue avec un Word 10.0, puis là, je comprends plus rien parce que mes icônes sont plus à bonne place. Alors, résistance aussi à des changements de ce type-là. Aussi, intégration de nouveaux outils dans la plateforme institutionnelle. Ah non, pas encore une fois, je vais être obligée d'apprendre quelque chose d'autre. Et les technologies mobiles. Oui, mais comment ça marche avec la plateforme que nous avons dans notre institution? La présence aussi de nouveaux acteurs. Maintenant, je travaille plus seule en tant qu'enseignant. Je vais travailler avec un spécialiste des médias parce que je voudrais que ce que je mets dans mon cours soit un petit peu plus joli que ce que je suis capable de faire, même si la plateforme me permet de mettre du contenu. Je vais travailler souvent avec un technologue d'éducation, un spécialiste d'éducation ou un conseiller pédagogique ou un spécialiste qui a été affecté au dossier, ce qu'on appelle chez nous un PRI. Et surtout, c'est que je commence à sentir que mon leadership, où j'étais le premier intervenant avec mes étudiants, je commence à le perdre parce qu'il y a beaucoup de monde qui intervient et je ne sais plus trop où me positionner. Beaucoup de remises en question, pas nécessairement eux, de leur manière d'enseigner, d'intervenir, mais de tous les gens qui les entourent en leur disant, écoutez, là, il va falloir changer votre manière d'enseigner puis d'intervenir auprès de vos étudiants. Et sans preuve d'efficacité des technologies implantées. Donc, on leur dit, vous prenez ça, ça va bien marcher. Oui, mais comment? Alors, et souvent, ils n'ont pas de réponse au comment. Aussi, l'enseignement, tout le débat de l'enseignement magistral versus la pédagogie participative, pour eux, c'est un débat démotivant. Si je suis un bon enseignant qui enseigne très bien en exposé magistral, pourquoi je ne peux pas l'être en utilisant une technologie qui va améliorer et quelque part, en améliorant, peut-être je ferai un petit peu de pédagogie active. Alors donc, pour eux, c'est un départ qui est souvent démotivant. Ça revient souvent, surplus de travail pour préparer les contenus de cours sur ces technologies sans compensation. Ça reste que c'est du travail. Et beaucoup peur de l'échec, du jugement des pairs. Je mets du contenu en ligne, qu'est-ce que les autres vont dire? Anxiété, découragement. Et je dois dire, on parle de décrochage de nos élèves, mais on peut parler aussi de décrochage de nos enseignants face aux technologies. Autre obstacle qu'ils trouvent extrêmement difficile, le choix technologique imposé sans qu'on les consulte, ni eux, ni leurs étudiants. Ah, formidable, le directeur d'école trouve que le wiki, c'est idéal. Mais les étudiants, ils utilisent Facebook. Ils n'utilisent pas le wiki. Est-ce qu'on pourrait essayer de consulter l'ensemble des acteurs principaux pour peut-être se demander quel pourrait être le choix technologique le plus pertinent? Le soutien technique déficient ou ce que les enseignants parlent orienté. Ça veut dire qu'à partir du moment qu'on a décidé d'implanter certaines technologies dans l'institution, si j'ai envie d'être novateur, d'être créateur, je n'ai plus de soutien technique. Donc, ma tâche devient extrêmement difficile. Un accès insuffisant aux technologies numériques. Effectivement, il y a des classes numériques où on a des tableaux numériques, des tablettes, et on a aussi des classes où il faut aller dans un laboratoire pour avoir accès aux ordinateurs. Donc, c'est une réalité qui est encore d'aujourd'hui. Et naturellement, les équipements technologiques trop coûteux qui fait qu'on ne peut pas équiper complètement des commissions scolaires ou des écoles. Prédominance de la formation technologique sur la formation pédagogique. Et là, je vais accélérer parce que je pense que je prends trop de temps pour arriver aux compétences. La formation des enseignants aux technologies se fait encore en face à face. Ça, c'est la chose que les enseignants nous disent le plus souvent. Écoutez, comment puis-je croire? Et comment pouvez-vous nous reprocher notre résistance à l'implantation des technologies quand vous n'êtes même pas capable de nous l'enseigner à l'aide des technologies? Alors ça, ça revient souvent. L'autre élément très important pour les enseignants, le manque d'espace-temps pour faciliter l'auto-formation, la formation personnalisée ou la formation par les pairs et les enseignants. Et aussi un manque d'espace-temps pour s'approprier les technologies et les intégrer à leur pratique. Imaginez, les élèves ont l'ordinateur dans la classe, mais les enseignants n'ont pas. Voilà une réalité. Ils ont le tableau électronique, mais ils n'ont pas leur propre ordinateur. C'est assez intéressant. Et naturellement, peu ou pas d'accompagnateurs pour le transfert dans leur pratique professionnelle. Souvent, il y a un professionnel pédagogique pour 7-8 écoles, et quand on en a besoin, des fois, il n'est pas toujours présent. L'autre chose qui reproche, méconnaissance des besoins des enseignants pour développer leurs propres ressources. Les enseignants nous disent toujours, « Ah, on nous promet plein de ressources technologiques, plein de ressources numériques libres, mais lorsqu'on les regarde, un, savez-vous combien de temps ça prend pour remplir les conditions du Common License? Il y a à peu près 42 Common License différents. Quand un enseignant utilise cette ressource, il doit lire, et ce qu'il ne fait pas en général, parce qu'il peut avoir des contraintes. Et lorsqu'on commence à vouloir adapter, c'est encore assez phénoménal comme difficulté qu'ils peuvent rencontrer. Et naturellement, ce qu'ils se plaignent, c'est qu'il y a un manque d'outils de recherche pour repérer les ressources numériques répondant aux besoins d'enseignants. Trop d'entrepôts, pas assez de guides pour s'y retrouver et trop d'outils pour choisir. Alors, rôle et compétences attendues des enseignants. À partir de ces enquêtes que l'on a fait avec eux, on a essayé de mettre en place un référentiel de compétences. Et vous allez savoir le contexte, parce que nous voulions développer un programme de formation personnalisé qui tiendrait compte de ce référentiel de compétences, ce que nous avons fait et ce que nous avons expérimenté, sauf qu'on n'aura peut-être pas le temps d'en parler. Alors, le contexte et les besoins, donc, l'hétérogénéité des compétences des enseignants, donc, tant du point de vue pédagogique, technologique que de formation en ligne. Écoutez, un professeur d'université, j'en suis une, ce n'est pas tous les professeurs d'université qui ont suivi des cours de pédagogie. Alors, il y a là des déficiences. Des déficiences technologiques, parce que des fois, on sait travailler avec Word, et quand on sait travailler avec Word, c'est pas pour faire des tableaux, c'est pour écrire un texte. Donc, il y a des compétences minimalistes. Et naturellement, en général, la plupart des personnes n'ont pas de compétences de formation en ligne. L'autre élément aussi, c'est que le personnel et la direction désirent travailler dès le départ avec des technologies qui vont permettre le synchrone et l'asynchrone dans un environnement mixte, mais surtout intégré. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils passent d'une technologie à l'autre en sortant et en rentrant au lieu d'avoir quelque chose de très intégré. Et naturellement, ils veulent avoir des technologies Web 2.0 et des outils de réseaux sociaux, mais leurs outils, pas nécessairement ceux imposés par l'institution. Ils veulent aussi un accès à un environnement web de communauté de pratique qui va permettre le partage, qui va permettre d'apprendre ensemble et de se concerter. Ils veulent, et ça c'est récent depuis les deux dernières années, c'est une réaction justement aux ressources libres. Ce qu'ils souhaitent, c'est qu'à ces ressources libres, qu'il y ait des canevas d'aide à la conception qui leur permettent de les adapter ou qui leur permettent d'en développer de nouveaux. Alors, par exemple, un canevas de jeu. Est-ce que je pourrais développer un jeu éducatif qui me demanderait environ une heure ou deux heures et qui pourrait répondre à mes besoins que j'ai dans la classe? Oui, il y en a, ça existe. Il faut les mettre tout simplement à la disposition des enseignants. Le partage, l'adaptation des contenus. Comment partager et adapter ces contenus? Et la formation, ce qu'ils souhaitent juste à temps. Donc, j'ai besoin demain matin, j'ai pas besoin d'une formation dans une semaine. Adapté aux besoins individuels. Écoutez, moi, je connais bien Word. Vous n'allez pas me faire repasser à travers toute l'utilisation de Word. Adapté aux besoins individuels, réalisé en milieu de travail, donc court, très rapide, et accompagné au moment du transfert. Donc, notre recherche développement était un programme personnalisé de formation et basé sur les compétences. Pour nous, à l'université, c'est, en tout cas au Québec, l'approche par compétences est quand même relativement nouveau. Donc, on voulait développer un référentiel de compétences qui permettait d'identifier les compétences, et là, je vais y aller rapidement, puisque notre collègue a déjà défini des choses qui nous rejoignent. Alors, quand on a mis au point ce référentiel de compétences, on a réuni des experts, les enseignants, les formateurs, parce que ce sont des experts pédagogiques qui nous parlent et qui vont utiliser ces outils-là, donc ils ont droit de parole, des professionnels pédagogiques, des agents de formation en milieu de travail ou en milieu communautaire. Naturellement, notre public cible, c'est les enseignants en formation initiale et continue dans tous les milieux où il y a de la formation. Donc, nous avons délimité les domaines de compétences à partir d'une littérature, mais aussi avec ces experts. Nous avons formulé des compétences générales et spécifiques au référentiel. On a validé ce référentiel après des discussions menées à l'aide d'interjuges et on a mis à l'essai ce référentiel-là auprès des enseignants pour en vérifier la compréhension. Pourquoi? Parce que cela allait nous servir pour développer, dans le fond, tous nos éléments de contenu qui sont en lien avec les compétences spécifiques. Donc, c'était extrêmement important pour nous d'aller valider. Donc, quatre domaines de compétences qui correspondent à quatre rôles, en général, qu'on attend de l'enseignant. Donc, design et production pédago, et là, je vous fais remarquer, je ne dis pas techno-pédagogique, mais je dis bien pédago-technologique, des contenus d'apprentissage, donc la pédagogie avant la technologie, être des communicateurs et mettre en place une animation pour la collaboration, être un soutien aux technologies web de leurs étudiants, parce que ce ne sont pas tous les étudiants qui connaissent bien les technologies web, et là, il reste deux minutes, et être des gestionnaires de contenu et des apprentissages. Alors, très rapidement, quelques exemples, parce que le référentiel est très long, quelques exemples, parce que ça forme un programme de formation. Alors, ce sont des exemples de compétences générales. Vous remarquerez qu'on va toujours sur l'aspect pédagogique avant l'aspect technologique et ensuite l'intégration au niveau de la pratique professionnelle. Donc, développer un scénario d'enseignement, d'apprentissage intégrant ces technologies. Mettre au point ou adapter des ressources d'apprentissage, ça, c'est un élément très, très important. Porter un regard critique sur l'intégration, donc être capable de choisir et de choisir les bonnes choses pour l'apprentissage et d'intégrer les méthodes d'enseignement, les technologies web appropriées à sa pratique professionnelle d'enseignant, mais surtout en le situant en rapport à ses aspects de sa pratique. Au niveau de la communication, promouvoir l'interaction en ligne en mode synchrone, audio et vidéoconférence. Utiliser des techniques d'animation de groupe en fonction de l'évolution des relations dans le groupe. On est très habile dans une classe ici parce qu'on vous observe tout ça à développer ces techniques-là. Mais lorsqu'on a un écran et un groupe de 100 élèves qui discutent avec nous et qui sont localisés un peu partout à travers le Québec, il faut adapter nos techniques d'animation. Stimuler la participation des apprenants, parce que souvent, lorsqu'on utilise ces technologies, les apprenants, même si on dit que c'est très interactif, ont peu de place, surtout en synchrone. Donc, comment amener les enseignants à les faire, à intervenir, animer des communautés de pratique de réseau. Au niveau technologique, vous en avez parlé, on va aller un peu plus loin, mais je vais porter juste l'attention sur assister les étudiants dans l'utilisation des technologies web. C'est encore important. Et au niveau de la gestion des contenus, et c'est là qu'on va un peu plus loin, c'est d'utiliser efficacement les outils de recherche pour mettre à jour les contenus. Organiser l'apprentissage. On parle beaucoup des ressources, on parle beaucoup de développer, mais on parle peu de comment on les organise. Imaginez, vous êtes devant 30 ressources différentes que vous avez trouvées, qui n'ont pas la même structure, qui n'ont pas la même organisation pédagogique, et tout ça, je dois l'intégrer dans un cheminement pour un étudiant. Alors, imaginez la surcharge pour l'étudiant et la surcharge pour l'enseignant pour en faire un tout intégré. Organiser aussi les contenus pour soutenir les parcours individualisés et personnalisés par rapport aux apprenants. Donc, comment j'organise ces contenus pour qu'une personne qui connaît bien certaines technologies n'aura pas à refaire cet apprentissage, mais plutôt à aller beaucoup plus loin au niveau de ces technologies-là. Et là, j'ai fini probablement.
Bravo.
Je devais vous parler des conditions, mais nous reprendrons.
On ne peut qu'être frappé par un certain nombre de similitudes avec les problématiques que nous rencontrons ici en métropole, en France. Et peut-être que dans la salle, des réactions immédiates peuvent interpeller tel ou tel point de l'exposé de Mme Sauvé. Monsieur Benhamou.
D'abord, merci de votre intervention et merci au Canada d'être présent dans notre réflexion. Manifestement, déjà une suggestion, parce que vous avez signalé au moins deux manques, alors que vous avez beaucoup de choses. Il vous manque un logiciel de création, c'est ce que vous avez dit, si j'ai entendu.
Non, ça, c'est ce que j'allais parler. C'est qu'on a mis au point grâce à ce référentiel de compétences, on a utilisé des outils d'aide de conception qui nous ont permis de mettre au point un référentiel qui permet une analyse de besoins pour les enseignants. Et à cette analyse de besoins, les enseignants vont chercher les contenus de formation pertinents. Et dans ces contenus de formation pertinents, on les habilite à utiliser des outils de conception pour développer des ressources numériques ou d'adapter des ressources numériques.
D'accord. Donc, de production.
Oui.
De production dans le cadre de ce que nous souhaitons pour tous, c'est-à-dire de la création de ressources numériques libres et ouvertes sous Creative Commons?
Tout à fait, parce que par exemple, on a actuellement, les enseignants utilisent beaucoup des environnements d'aide à la conception de jeux. On a peut-être, actuellement, on a 7 à 8 000 jeux qui ont été développés par des enseignants du primaire, du secondaire, du collégial, de l'université, dans beaucoup de langues, et qui, quand je dis ça, c'est pour le français, on en a dans d'autres, et qui est partagé par les enseignants, qui peuvent être adaptés par les enseignants. Donc, c'est des expériences de ce type-là que nous faisons pour voir comment les enseignants reçoivent ces outils-là. Je dois vous dire qu'ils en font un jeu, et ils en font deux, et après ils en font trois, et ils adaptent de plus en plus, et ils partagent de plus en plus. Donc, c'est une façon aussi de diversifier leur enseignement.
Et vous avez parlé aussi d'un manque sur les guides pour les enseignants,
ça aussi,
les tutoriels, parce que dans notre réflexion Sankore, comme on l'a bien dit plusieurs fois déjà, le logiciel de création Open Sankore, accompagné de tutoriels, c'est un peu la base sur laquelle nous essayons d'avancer. Alors, il faut vraiment qu'on se rapproche et qu'on travaille ensemble.
Oui, parce qu'on on réfléchit et on n'a pas nécessairement toute la vérité sur ces développements. Ce qu'on essaie de faire, c'est en recherche-développement, c'est de voir est-ce que ça aide. On met en place des outils et on regarde comment les enseignants, on les observe. Le fait qu'on a des outils qui enregistrent aussi, parce que nous, on l'observe, mais on les observe en ligne. Ça veut dire au moment où ils développent à l'aide des technologies qu'on leur propose, on les observe, mais on les observe visuellement. Ça veut dire on a le webcam est là et sert. Et tout ce que l'enseignant va faire en termes de traces, en termes de travail, va être observé. Alors, on a un outil, ça semble très intuitif, puis là, on s'aperçoit qu'il fait... Et là, on se dit, oups, là, il y a un petit problème. Donc, on va soit faire une aide contextuelle en temps réel. Donc, toute la part de l'aide contextuelle en temps réel versus les tutoriels versus les guides. Je dois vous dire, on a trois styles d'enseignants. Si vous donnez un tutoriel, il ne le lit pas. Si vous lui donnez une aide contextuelle en temps réel, certains enseignants, et ça, c'est 35% de nos enseignants, ils vont cliquer sur l'aide contextuelle en temps réel parce que c'est quatre phrases et c'est quatre phrases appropriées exactement à l'endroit dont il a besoin. Alors, nous, on offre trois types de tutoriels et je dois dire les trois types d'aide à la... Alors, ce qu'on appelle du temps réel, donc une aide très appropriée, une aide tutorielle et ce qu'on appelle des outils de démonstration. Donc, par rapport à une application, l'enseignant peut avoir par bride de 2 à 3 minutes. Et lui-même peut mettre des signets pour dire « Ah, ça, il faut absolument que je revienne là-dessus pour revoir ce contenu-là. » Donc, il peut poser un signet dans la vidéo. Et lorsqu'il revient visionner son objet d'apprentissage, il peut cliquer juste sur ses signets et il va avoir juste les éléments nécessaires à son apprentissage. On essaie. Et je dois vous dire que les enseignants adorent ça. Et ils se disent « Bien, peut-être que nos étudiants aussi, comme dans les liseuses, nous pouvons mettre des signets. » Pourquoi nous ne pourrions pas faire la même chose dans nos environnements? Alors, ça, c'est une expérience qu'on a vécue avec nos enseignants qui a été très efficace.
Thierry Dulpilière, Microsoft. Merci pour votre présentation qui était limpide. Juste une petite question sur le succès que vous avez auprès de vos enseignants. Vous avez en partie répondu. Quel est le taux d'enseignants qui suit et qui bénéficie de ces formations? Et si ce taux est élevé, comment vous obtenez un succès pour qu'ils suivent ces différentes formations dont, qu'ils ont l'air de réclamer, mais visiblement dans, un peu partout à l'international, c'est pas souvent un grand nombre d'enseignants qu'on arrive à amener à ces formations. Donc, quel est votre taux de succès?
Écoutez, nous, c'était de la recherche-développement et les enseignants s'inscrivaient de façon volontaire. C'est comme le marketing virtuel. J'ai un collègue qui travaille là-dessus, c'est formidable. Autant le référentiel qu'on a demandé à des enseignants partout à travers le monde de le compléter, et on en a eu vraiment de partout. C'est sûr que pour nous, on regardait particulièrement au Québec. Ce que j'ai représenté, c'est plus le Québec, parce que bon, on m'avait demandé de parler plus dans ce sens-là. Et ce qu'on a réalisé, c'est qu'en complétant ce référentiel, en les sollicitant, en leur demandant aussi les obstacles et les compétences, lorsqu'on a retourné, parce qu'on leur demandait s'ils acceptaient que si on faisait une formation, s'ils acceptaient de la suivre, elle était gratuite, ils pouvaient la suivre aussi longtemps qu'ils voulaient, etc., si on pouvait leur envoyer ce programme. Et la plupart ont dit oui. Et lorsqu'on a renvoyé le programme, on a fait comme deux moments de démarrage parce qu'on voulait suivre avec des instruments de mesure et tout. On a demandé aux gens, écoutez, oui, c'est dur, une formation, quand on expérimente, il faut remplir certains instruments de mesure. Et on leur a dit, écoutez, à chaque fois, les instruments, c'est 2 minutes. Nous, on était la vague du 2 minutes et ça a bien fonctionné. Et on a eu des enseignants qui sont venus de vraiment partout et qui ont expérimenté. Je dois vous dire qu'on a eu un taux d'abandon très, très faible. Et quand on avait un taux d'abandon dans une expérimentation, il se réinscrivait dans la deuxième. Alors, ça a été le phénomène qu'on a rencontré. Et lorsque l'expérimentation a été terminée, on a eu 42 % de ceux qui faisaient l'expérimentation qui nous ont dit « Est-ce que nous pouvons continuer notre formation? » Et on a dit « Oui, c'est ouvert. Aussi longtemps vous serez inscrit parce que nous, on voulait ramasser les données. » Aussi longtemps vous serez inscrit, vous aurez votre portfolio, vous pouvez continuer votre formation, vous pouvez y revenir. Et on a encore des enseignants qui sont inscrits depuis 4 ans, qui reviennent parce qu'on constamment on met à jour cette formation des formateurs à la formation en ligne. Donc, ils reviennent et ils refont leur analyse de besoins. Et suite à cette analyse, ils vont dire « Ah, tiens, il me manque telle chose, je vais aller faire cette formation. » Et comme les formations sont basées sur des choses de 5 à 7 minutes, je peux le faire à l'école, je peux le faire quand je veux et je peux le faire avec des collègues aussi. Parce que l'outil de travail collaboratif qui est intégré, je peux demander à un collègue de venir travailler avec moi et on va partager le même contenu et on va échanger sur ce contenu-là. Donc, on a vu toutes sortes de techniques que les enseignants ont mis en place parce qu'on leur avait laissé les outils. On leur a même laissé l'outil qui avait servi à créer cet environnement. On leur a laissé l'outil pour qu'ils créent leur propre formation. Et là, on a eu quelques enseignants qui ont formé d'autres enseignants sur des technologies que nous n'avions pas. Bravo! On s'est dit, un élargissement. C'est comme ça que ça a fonctionné. Merci. Donc, on a eu un taux quand même assez intéressant, des attitudes très positives. Mais quand je vous dis, c'était du volontariat, donc ça reste des gens qui voulaient apprendre. Donc, si c'était des gens qui n'étaient pas nécessairement volontaires, peut-être que nous aurions d'autres résultats. Mais là, pour le moment, c'est les gens étaient volontaires.
Peut-être que donc, merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Monsieur François Villemontex, qui est maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise et qui va nous parler donc de l'évolution du rôle des acteurs de l'enseignement numérique. Pour savoir comment ces acteurs influencent aussi. Ces transformations dans l'enseignement.
Bien, je reviens sur un point qui a été évoqué hier matin par M. Bergamelli. Il parlait d'évolution dans l'offre, finalement, de formation et de regarder comment évoluer les métiers, comment évoluer les fonctions professionnelles en éducation et notamment en termes d'éducation numérique. Moi, je m'intéresse tout particulièrement justement au passage. Dans la présentation que je vous propose, le passage d'une position d'enseignant, d'innovateur, de bricoleur, à une position différente, c'est une position d'intermédiaire. C'est-à-dire que tous les gens qui sont en France destinés à médier l'information relative à l'utilisation des technologies en éducation sont des gens qui, au départ, étaient enseignants sur le terrain, qui étaient des praticiens, qui un jour se retrouvent dans une nouvelle position. Donc je me suis intéressé à ce changement, ce passage, pour m'intéresser en gros aux intermédiaires, ce que j'ai appelé les intermédiaires, ceux qui sont les intermédiaires dans la prescription, partant du principe que le prescripteur final, c'est l'enseignant, qu'il y a un prescripteur intermédiaire qui peut être l'inspecteur, et il y a des intermédiaires qui sont là dans une position où ils ont à médier un discours institutionnel, mettre en place une ingénierie et développer des pratiques de formation, notamment d'accompagnement. Il y a peu de recherches sur ces personnes. Alors, il y a des recherches en sociologie, en psychologie sociale sur les formateurs. Je renvoie à Altay, Paquet, Pernou qui ont fait un collectif là-dessus. Il y a de la didactique professionnelle sur le sujet. Au CNAM, ici, ils ont un peu travaillé sur ces fonctions professionnelles. À leur devenir, ce qu'ils sont devenus lorsqu'ils étaient innovateurs bricoleurs et lorsqu'on leur a proposé un nouveau rôle. L'intérêt pour ces intermédiaires, finalement, relève d'un courant sociologique sur les professionnalités, les identités professionnelles. Et en parlant d'identité professionnelle, on peut dire que produites autrefois collectivement, les identités professionnelles tendent désormais à être bricolées par les individus en fonction de leur trajectoire personnelle. Donc, en gros, je m'appuie sur ce qui se passe en amont, qui ils sont, d'où ils viennent, quelle est leur biographie. Et que deviennent-ils lorsqu'ils sont dans une position de formateur, de prescripteur intermédiaire ou d'auxiliaire de prescription en termes d'identité professionnelle? Comment comprennent-ils leur position? Comment la définissent-elles, soit individuellement, soit collectivement? Donc là, j'ai pris une citation dans cette perspective. Je regarderai tout particulièrement une population qui est celle des animateurs TIS du premier degré, à partir de laquelle je pourrais tirer un certain nombre de perspectives sur d'autres, catégories un peu du même ordre, que sont les personnes qui accompagnent les politiques TIS près des enseignants, dans le cas de la formation continue, dans le cas de l'accompagnement. Et je rebouclerai à la fin, finalement, sur des conditions qui font que, partant d'une position initiale de bricoleur, d'innovateur, comment faire en sorte pour remettre à jour dans une position intermédiaire cette valence, cette particularité qui fait qu'à un moment on les a repérés et on les a pris pour finalement accompagner la prescription institutionnelle. Les enseignants, si on reprend un enseignant quand il est dans sa classe, d'une manière très générale, est plutôt un bricoleur. Un bricoleur au sens ethnographique ou ethnologique du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui réutilise qui prend des morceaux, des bribes de choses qui ont été utilisées auparavant, qui les reconstitue, qui les réaménage et propose des supports pour ses élèves dans une perspective didactique, didactisée, disons, dans une perspective pédagogique. Le bricoleur, quand il fabrique son support, quand il fabrique ses ressources, il parle de lui. Et ça, c'est intéressant. C'est Lévi-Strauss qui dit ça. Il dit qu'il y a toujours quelque chose de soi dans son objet. Et comme disait Jaurès, en fait, on enseigne ce qu'on est. Et là, en l'occurrence, quand un enseignant fabrique ses ressources, il y a aussi une part de lui qui montre bien qui il est, au fond, et qu'est-ce qui, finalement, crée la motivation qui participe de la motivation à produire une ressource de telle ou telle forme, sachant que deux enseignants différents ne produiront pas les mêmes choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un innovateur. Si c'est un innovateur, et là, j'emprunte plutôt à la sociologie des innovations ou la sociologie de la traduction, que connaît bien M. Puy-Matteau, présent dans la salle, l'enseignant, c'est quand même un acteur. Ça veut dire qu'il évolue dans un système de contraintes, un certain nombre de préconisations, de règles. Il a des capacités d'action. Il y a un espace de jeu où il peut produire des choses selon les contraintes qui lui sont posées. C'est bien entendu à rationalité limitée, mais il peut modifier et adapter ses contraintes et il met en œuvre des capacités d'action. Donc, il va innover, mais l'innovation, c'est quand même de la prise de risque. Et l'enseignant le sait. Prendre des risques, ça veut dire faire quand même un calcul entre le coût de l'innovation, ce que ça lui coûte à lui, et le rapport qu'il pourra en tirer, le bénéfice. Le bénéfice, c'est le fait d'avoir accompli quelque chose qui est performant en termes éducatifs. C'est aussi adopter une nouvelle position dans son institution locale, dans son école, dans son établissement, avoir une image de lui qui est modifiée, transformée, et aussi, finalement, attendre peut-être quelque chose d'autre part, mais qui est purement hypothétique au départ. Les coûts, on les connaît, les coûts de l'innovation, c'est du temps, c'est de l'effort, c'est du rapport à l'autre qui n'est pas forcément très évident non plus. Mais néanmoins, vous voyez, il y a toujours cet équilibre qui n'est pas à dénier lorsqu'on parle des innovateurs. Les bénéfices possibles, hein, j'ai bien dit, il y a une légitimité, probablement un changement de position et pourquoi pas aussi une influence sur son environnement. Et un jour, ils sont repérés. Ces enseignants innovateurs sont repérés par la voix d'un ancien innovateur qui finalement se reconnaît, se projette, par un inspecteur, bref, par l'institution, et ces acteurs sont placés dans une position intermédiaire d'auxiliaire de prescription. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, auxiliaire de prescription ? C'est l'animateur TIS dans le premier degré, c'est les nouveaux référents TIS établissements dans le second degré qui sont dont la genèse, finalement, est récente, et pour l'instant, sur laquelle probablement il sera intéressant de travailler, de faire des observations. C'est des animateurs TIS dans le second degré de bassin, qui interviennent en formation continue, en accompagnement, qui interviennent auprès des collectivités. En France, il y a quand même beaucoup de profils différents de personnes ressources. Et les personnes ressources en établissement, les PRI, ce sont des collaborateurs au sens d'Erwin Goffman, c'est-à-dire des collaborateurs de premier niveau. Ils sont adaptés à leur nouveau milieu à un premier niveau. Ils acceptent les règles, ils les incorporent, ils deviennent finalement des opérateurs institutionnels. Goffman, il distingue une adaptation de premier niveau d'une adaptation de deuxième niveau. En informatique, par exemple, l'adaptation de deuxième niveau à un nouveau milieu, ce serait le hacker. Ce serait quelqu'un qui, justement, utilise des procédés plutôt déviants pour atteindre un but, a priori, illicite. C'est quand même un innovateur, d'une certaine manière. Mais lorsqu'ils sont placés en position d'intermédiaire, il y a quelque chose qui change. Leur professionnalité initiale, leur identité professionnelle initiale, elle change, elle est bousculée, elle est bouleversée. On innove auparavant en se fixant des marges de manœuvre. Là, c'est plus le cas. On a accompagné une prescription. Donc, les anciens innovateurs se retrouvent dans une nouvelle position et l'acte innovant qu'ils peuvent avoir change de cible. On va voir après sur un cas particulier. Autrement dit, c'est pas forcément au service, ça peut l'être, c'est pas au service des enseignants et d'une valeur ajoutée de l'utilisation des technologies avec les élèves que l'innovation se situe. Elle va se situer aussi ailleurs, dans, par exemple, les modes d'accompagnement d'une prescription, par exemple le B2I ou une évaluation dans le premier degré, ou créer des outils ou des instruments, mais c'est aussi pour le bénéfice du groupe professionnel nouveau auquel cet ancien innovateur enseignant appartient désormais. Alors, je me suis intéressé à une population particulière pour illustrer ce propos, la population des animateurs TIS. Donc, il y a la promotion, bien sûr. Cet ouvrage parle, fait disons un état de la question de l'informatique scolaire, si vous voulez, entre le début des années 2000 jusqu'à 2006, 2005-2006, et en même temps approche un collectif, une organisation professionnelle particulière que sont les animateurs TIS. Et je suis parti d'un premier élément qui est la note de service, une circulaire qui les installe, et qui les installe en 1991, et qui est assez particulière puisqu'elle les installe en creux. Elle les installe en disant, voilà, il y a des animateurs TIS dans le paysage, c'est pas des conseillers pédagogiques. Donc déjà, première chose, c'est une négation. Deuxièmement, pour qu'ils travaillent, il faut qu'ils négocient avec des formateurs, sous-entendu, à l'époque, c'était des formateurs plutôt des écoles normales ou UIFM. Et ils ne doivent pas participer eux-mêmes à l'encadrement des stages, ou s'ils y participent, c'est que de façon occasionnelle. Et il y a une ambiguïté dans ce texte au départ, c'est, disons, une ambiguïté, une ambivalence, une espèce de mise en concurrence avec d'autres populations, mais en même temps, on les reconnaît comme absolument indispensables, et même à la limite, avec une phrase un peu culpabilisatrice, si je puis dire les choses ainsi, les enseignants ne mettent pas en œuvre, enfin, disons, les enseignants, nombre d'enseignants ne mettent pas en œuvre des activités informatiques à l'étude d'un stage, faute d'un accompagnement apporté par ces animateurs. Autrement dit, si ces animateurs n'accompagnent pas, à ce moment-là, il y a des risques que les enseignants ne mettent pas en œuvre des activités informatiques. Donc, première définition d'un texte, enfin, le texte pose les choses un peu en creux et installe, en quelque sorte, un déficit de légitimité. Alors, qui sont ces animateurs ? Alors, juste pour quand même préciser une chose, j'ai repris M. Bergamelli tout à l'heure, je reprendrai aussi M. Jean-Louis Durper dans le fait qu'il souligne tout particulièrement l'importance de ces animateurs dans l'accompagnement d'opérations nationales prescrites, et notamment dans le cadre de la mise en place du plan école numérique rurale. Autrement dit, et c'est comme ça qu'il s'illustre, et ça a toujours été le cas depuis le début des années 80. Le plan informatique pour tous a permis de créer ce corps, par exemple, et ils ont accompagné comme ils ont pu, mais ils ont accompagné. Et chaque fois qu'il y a une prescription importante de cet ordre, ils se mobilisent et se trouvent extrêmement réactifs et extrêmement innovants. Alors, qui sont-ils ? Bon, mais c'est majoritairement des hommes, plutôt anciens dans les missions d'enseignants, hein, 22 ans de moyenne à peu près sur une population de... Je fais un questionnaire, donc 390 répondants. Donc 22 ans d'ancienneté, 7 ans sur des postes d'animateur TIS. Mais ce qui est intéressant, c'est des manières très variables de traiter leur position institutionnelle. Autrement dit, comme c'est départemental, c'est à l'arbitrage de l'inspecteur d'académie que de dire ils sont à plein temps, ils sont à mi-temps, ils ont des indemnités qui compensent finalement leur investissement. Bref, les traitements statutaires sont particulièrement inégaux et ils ont une certaine liberté finalement dans la gestion de leur temps. On a des tendances sur leur activité, bien que je n'ai pas fait d'observation précise et clinique de leur activité en temps réel. Mais c'est des formateurs, ils font du conseil, ont une valence technique très forte. Et ils ont une tradition, c'est d'être producteurs de ressources, à peu près à 45% de la population interrogée. Et à 59% en direction des enseignants, c'est-à-dire fabrique du tutoriel, des supports de formation, etc. Mais ils perçoivent finalement leur fonction comme une fonction d'appoint. Et quand on les regarde parler de leurs tâches, ben, on s'aperçoit que finalement ils sont plutôt sur des actions sollicitées par les collègues en classe, donc ils considèrent qu'ils sont extrêmement utiles étant donné la charge qui augmente sur le dos des collègues. Ils sont aussi en incertitude par rapport à leur positionnement institutionnel, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont à travailler sur les remontées d'informations relatives aux évaluations nationales, ils savent pas trop comment se positionner par rapport à leurs collègues envers lesquels ils estiment avoir une très grande légitimité parce qu'ils ne sont pas autre chose que des collègues enseignants, mais vis-à-vis de l'institution et notamment des inspecteurs sur qu'est-ce qu'on fait des données d'évaluation. Et ça, c'était une tendance très importante lorsque je les ai interrogés. Je vais aller un peu plus vite. Moi, je me suis beaucoup intéressé finalement à leurs discussions. Ce qui m'a beaucoup mobilisé, c'est plutôt le travail fait autour de leur communauté de pratique, qui s'est surtout manifestée sur une liste de discussion qui est extrêmement active depuis la fin des années 90, donc créée par le ministère, fin 99, une liste de discussion extrêmement active où le discours est complètement différent lorsqu'on les interroge sur questionnaire et lorsqu'on regarde précisément ce qui se dit dans leur communauté de pratique. Communauté de pratique, pourquoi ? Ce n'est pas un collectif d'enseignants et ce n'est pas un réseau d'enseignants, il y a des recherches sur ces questions, mais c'est une communauté de pratique parce qu'elle partage, pardon, tous les individus partagent les mêmes intérêts et les mêmes valeurs. Et pour mettre en avant leurs intérêts, ils fabriquent des objets et des outils ensemble pour maintenir leur communauté à flot, ce qui n'a rien à voir avec un collectif d'enseignants ou un réseau d'enseignants. Mais là, bon, il faudrait regarder des recherches précises là-dessus. Donc j'avance un peu plus vite. Je termine. Donc cette communauté est active, bien entendu. Sur cette communauté, il y a d'énormes discussions statutaires sur leur positionnement statutaire, ce qui est plutôt qualifié de petit conflit quand on regarde la sociologie des identités professionnelles. Et il y a quand même derrière un enjeu de domination dans le champ de pratique, c'est-à-dire c'est eux, dans le premier degré, qui ont la main sur un domaine qui est fortement technicisé, en concurrence avec d'autres acteurs du même champ, ou d'un champ plus large éducatif, qui pourraient prendre leur position. Or, le combat n'est pas forcément le bon. En tout cas, il y a de l'incertitude sur leurs fonctions, les contraintes sont particulièrement changeantes. Je terminerai sur quelques points sur les acteurs intermédiaires, finalement, de manière un peu plus générale. On a quelque chose qui se passe dans cette communauté, comme dans d'autres, à partir du moment où les statuts ou les positions sont encore incertaines. C'est-à-dire qu'il y a des risques de crispation d'une communauté, de fermeture d'une communauté et de création d'une doxa d'une communauté. Et ça se voit beaucoup, pas en éducation simplement, mais dans le milieu médical, dans d'autres secteurs, où il y a des micro-communautés qui se créent comme ça, quand il y a des systèmes de contraintes fortes, des micro-communautés qui se créent avec des discours qui empêchent finalement l'innovation vers l'extérieur. Néanmoins, quelques enjeux aujourd'hui pour l'éducation nationale face à ces intermédiaires. Premier cas, on conserve finalement un état d'incertitude. On conserve des rôles très locaux et on conserve une population malléable. Autrement dit, quand il y a besoin de récupérer des postes, on les enlève et puis on récupère des postes et on les met ailleurs. Si ce cas est posé, à ce moment-là, aucune chance que ces acteurs-là qui ont besoin d'un réseau très large pour travailler puissent le faire dans de bonnes conditions. Deuxième cas de figure, on en fait une force d'invention, c'est-à-dire on redonne la capacité de création et d'invention et donc d'innovation à ces personnels, aussi bien ceux-là que ceux qu'on va trouver dans le second degré. Donc, pardon pour les petites erreurs. Donc quelle définition nationale ou même académique, pour avoir été dans un pilotage académique sur plusieurs départements, le fait d'avoir des populations qui sont différentes d'un département à l'autre pose vraiment question. Quelle définition nationale donner à ce type de rôle et quel traitement administratif aussi y apposer ? Deuxième point, comment penser une intégration dans des réseaux plus larges ? Et quand je dis des réseaux, ce n'est pas simplement des réseaux. Alors, la vulgate du réseau social ne suffit pas, bien qu'elle soit tout à fait intéressante à regarder. Il y a des animateurs TIS, par exemple, dans le sud de la France, qui travaillent beaucoup sur Twitter pour échanger sur des ressources, par exemple. C'est tout à fait intéressant. Mais comment penser à des réseaux plus larges ? C'est-à-dire avec d'autres organisations. Et je pense notamment aux collectivités, au réseau CNDP, à d'autres collectifs organisés qui permettent d'assurer une veille et d'assurer finalement un maintien et une mise à jour des compétences professionnelles. Et d'une manière générale, comment penser projet avec ces acteurs, en sorte que les effets de crispation puissent être largement dépassés. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. On voit bien que c'est question d'intermédiaires dans la conduite des transformations est important. Peut-être qu'on passe la parole au dernier intervenant et que éventuellement il y aura quelques questions après. Donc, Claudio Simili, conseiller de TIS auprès du recteur de l'Académie de Créteil, sur les outils d'auto-formation et les tutoriels dans la formation des enseignants.
Bien, merci d'abord de m'avoir invité. Je vais essayer, moi, d'indiquer un certain nombre de choses très pratiques, puisque nous avons aujourd'hui, nous, des problématiques très concrètes à mettre en œuvre. Donc, mon intervention se fera en quatre parties. première partie qui est sur finalement l'expression du besoin, de quoi nous partons. Une deuxième partie qui est l'état de la formation que nous mettons en place et la place de l'auto-formation dans cette formation. Enfin, un exemple d'outil que nous avons créé. Et puis, une réflexion un petit peu prospective sur demain et la place de l'auto-formation dans la formation. Donc déjà, l'Académie de Créteil, c'est quelque chose comme environ 80 000 enseignants du premier et du second degré. Quand on parle, parce qu'on va être un petit peu plus centré sur le second degré, on va être sur 35 000 enseignants et environ 350 000 élèves. Ce qui veut dire que quand nous entamons un programme, qui est un programme, par exemple, d'accompagnement des enseignants sur, par exemple, ou d'accompagnement des enseignants sur, par exemple, l'utilisation d'un instrument numérique, eh bien, à chaque fois, quand il s'agit du premier ou du second degré, c'est une volumétrie de 40 000 enseignants qu'il faut que nous soyons susceptibles de toucher. Nous nous appuyons pour cela sur le développement d'un réseau de formateurs et de méthodologies. Donc, nous avons commencé ce travail à partir de la création de collèges numériques expérimentaux, qui ont commencé à 3, 8, puis 32. Et puis, nous avons participé à un certain nombre d'expérimentations initiées par le ministère, par exemple celle sur le développement de l'usage des manuels numériques. Et enfin, nous sommes également sur des phases de généralisation des espaces numériques de travail depuis 2007, avec le cartable en ligne, et ensuite des espaces numériques de travail qui sont partenariaux avec les collectivités, la région avec l'ILI et le Conseil général du 93 avec Célia. Ce que je vais vous dire est issu de deux rapports qui sont des rapports d'un observatoire académique de l'usage des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement. Un premier rapport que nous avons fait avec des collègues inspecteurs et y compris accompagnent là-dedans des universitaires parce que la spécificité de l'académie, c'est de travailler en étroite relation avec plusieurs laboratoires. Nous travaillons en étroite collaboration avec le STEF de Cachan, avec le LIPSIS, avec maintenant l'Université de Cergy-Pontoise et également le laboratoire de M. Baron. Ces observatoires ont réalisé des rapports sur, dans un premier temps, ce qui était le plan de développement des usages des manuels numériques et dans un second temps sur le travail sur tout ce qui concerne les cahiers de texte électroniques. Cela étant, sur les manuels numériques, nous avons beaucoup observé sur ce qui se passait sur l'usage des tableaux numériques interactifs. Bien, alors nous sommes également sur une diversité d'expérimentations et sur une diversité d'instruments. Nous sommes sur des expérimentations qui concernent la 3D stéréoscopique, qui concernent l'utilisation de tablettes pour assurer de la différenciation pédagogique et enfin sur des activités qui sont sur les jeux sérieux. Alors pourquoi cette diversité d'expérimentation au travers de la diversité des instruments? Déjà une première réponse qui est le problème du temps. C'est-à-dire que le temps aujourd'hui fait que un certain nombre d'instruments arrivent très rapidement dans les pratiques pédagogiques des enseignants et qu'il faut être capable de se préparer à assurer la formation de ces enseignants dans le cadre où il y aurait généralisation ou pré-généralisation de ces instruments. Et que donc, il faut que nous ayons au niveau académique, au plus près du besoin, un certain nombre de groupes d'experts qui soient susceptibles de régénérer finalement leur capacité formative. Dans un second temps, c'est parce que effectivement, il faut avoir ou ici, il faut entretenir une dynamique qui est une dynamique académique de personnes qui soient susceptibles de rentrer dans des phases expérimentales et qui aient des attitudes pionnières pour servir justement de base installée de formateurs. La problématique sur laquelle en fait je vais préciser la réflexion est une problématique de généralisation des tableaux numériques interactifs dans tous les collèges, puisque en 4 ans, toutes les salles de classe de tous les collèges de 2 départements, donc de 120 et 126 collèges, vont être équipés de tableaux numériques interactifs et ou d'espaces de vidéoprojection interactifs. Donc un premier constat que nous avons fait lors de nos visites en établissement, c'est que très souvent, en fait, quand on est sur une problématique de diffusion d'un nouvel instrument, comme un tableau numérique interactif, nous avons très souvent un enseignant qui est dans une position relativement frontale, qui est souvent proche, en fait, d'une logique de transposition de ce qu'il faisait avant, avec une centration sur l'objet et peu d'action vers l'élève et de différenciation au niveau de la capacité cognitive de chacun des élèves. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui améliore pas spécialement la situation. Il y a un enjeu majeur à faire évoluer cette situation parce que, quelle que soit la situation formative dans laquelle nous mettons les enseignants, on va dire que 70% des enseignants formés se mettent en place dans cette situation-là. Un deuxième point et un deuxième constat, qui est que les enseignants ont quasiment tous une attitude pionnière. Alors, on leur fournit un certain nombre de ressources disponibles et quasiment tous les enseignants construisent un document, qui est un document de travail, soit pour les élèves, soit pour leur présentation, à partir des ressources qu'ils avaient de disponibles. Et quand je dis qu'ils le construisent, c'est-à-dire qu'ils le construisent complètement, ils l'assemblent et ensuite ils l'utilisent pour le projeter ou pour le transmettre aux élèves. En conséquence de ça, dans un deuxième temps, très souvent, l'année suivante ou sur une séquence qui est différée dans le temps, les enseignants ont tendance à améliorer leurs ressources. Alors, quelquefois, en fait, ils essaient de la restructurer pour qu'elle soit davantage adaptée à leur démarche pédagogique. Et d'autres fois, simplement, en fait, ils la font complètement évoluer ou ils la bâtissent complètement. Autour de ces problématiques, quand un nouvel instrument arrive dans un établissement, ce que nous pouvons voir, c'est que plusieurs enseignants ont tendance à se rapprocher. Globalement, la difficulté d'utilisation de la nouvelle ou du nouvel instrument fait que les enseignants se rapprochent déjà sur leur pratique et ensuite, en fait, se rapprochent dans la façon de partager leurs ressources. C'est-à-dire que l'attitude communautaire n'est pas une attitude naturelle, c'est une attitude qui se crée dans les établissements expérimentaux que nous avons pu suivre au travers de plusieurs choses. Premièrement, une dynamique d'établissement. Second temps, une dynamique d'un certain nombre d'enseignants pionniers qui vont entraîner les autres enseignants vers ces nouveaux usages. Troisième point, le dynamisme du professeur référent informatique dans l'aide, dans l'accompagnement, dans la disponibilité par rapport à ses pairs. Et donc, à partir de là, le développement d'un certain nombre de ressources, de relations entre les enseignants par un système qui est la plupart du temps informel. Tout cela évolue dans le temps. Ça évolue dans le temps. La plupart du temps, il y a une diffusion en tache d'huile, c'est-à-dire que le groupe agrège d'autres enseignants qui ont la volonté de faire évoluer leur pratique, soit par la curiosité, soit parce qu'ils arrivent à montrer que ce que nous avons, c'est finalement intéressant par rapport à la pédagogie, que c'est finalement quelque peu rentable et que les autres enseignants ont envie d'y passer. Donc, en conséquence, sur la formation des enseignants, quand on introduit un nouvel instrument de façon massive, on s'est dit qu'il y avait trois réflexions. La première réflexion, c'est que le besoin des enseignants n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'on ne règle pas le problème en faisant une formation massive et ensuite en mettant un dispositif d'accompagnement linéaire, par exemple avec un fil rouge et un certain nombre d'activités à faire dans lequel, entre guillemets, ils vont pouvoir s'aligner dans le temps. Non, la demande des enseignants n'est pas linéaire parce que la prise en main de l'instrument déjà dans l'établissement n'est pas quelque chose de linéaire. Ensuite, une partie de la formation des enseignants, particulièrement dans la généralisation de ces instruments, s'appuie sur le travail entre pairs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation généraliste qui tienne, il y a un travail de toutes les façons de fond entre pairs. Et ce travail de fond entre pairs, il est entrecoupé par des moments d'auto-formation où l'enseignant a des besoins particuliers et il se met dans une situation où lui, il va auto-apprendre. En conséquence de cela, ça veut dire que la formation doit être pour nous au plus près des enseignants, au plus près des équipes pédagogiques. Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur deux aspects, c'est ce que nous faisons. On travaille sur l'aspect des profs référents informatiques, où il y a un travail particulier pédagotechnique, j'ose plus dire technico-pédagogique, mais pédagotechnique. Et derrière, un travail sur le terrain, à la fois de formation, je reviendrai sur la définition de la formation, et également sur la co-formation avec la valorisation du travail d'équipe qui se fait par l'intermédiaire du chef d'établissement. Alors, la création des contenus et des ressources. Donc, elle s'appuie sur des auteurs qui sont des membres experts, soit en fait du pôle numérique académique, soit des groupes de réflexion et d'expérimentation informatique disciplinaire. Ça, c'est ce que nous avons pour le second degré, mais nous en avons également un sur le premier degré, qui s'appuie sur le travail des expérimentateurs et des pionniers. C'est-à-dire que, avant de construire une ressource, nous estimons que nous devons avoir une masse de pionniers critiques qui ont stabilisé des activités et des usages, ce qui nous permet finalement de construire des contenus formatifs qui vont permettre à l'ensemble des utilisateurs de mettre en œuvre, d'utiliser les instruments numériques, à la fois à partir d'une stratégie de formation et d'une banque de ressources qui allie au moins trois éléments, des pratiques pédagogiques, des contenus associés pour faire de la pédagogie et des tutoriels de prise en main. La communauté de pratique de base et la communauté de pratique des groupes de réflexion et d'expérimentation disciplinaire qui sont pilotés par les IPR et qui donc, par là même, valident les actions pédagogiques qui sont ensuite développées dans la formation des enseignants. Alors, sur le partage de pratiques, on est parfaitement conscient que l'instrument, finalement, va bousculer les pratiques pédagogiques des enseignants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de phasage linéaire dans l'utilisation de l'instrument. Il y a l'apprentissage de l'utilisation de l'instrument qui, finalement, quelque part, ouvre aux enseignants des pistes probables d'utilisation. Et le fait d'ouvrir des pistes probables d'utilisation est quelque chose qui fait enchaîner le changement des pratiques d'enseignement de ces enseignants. Et donc le véritable vivier, la véritable richesse, ce sont les pratiques pédagogiques des enseignants que nous devons être capables de trier, d'avoir du discernement avec, d'avoir un œil expert qui puisse dire que c'est une pratique pédagogique qui est acceptable, qui permet de mettre en valeur un usage et un appui de situation technologique, et à partir de là, effectivement, influencer la construction de la ressource. Voilà, donc quel est l'état de l'art un petit peu de la formation? Alors, nous mixons finalement un certain nombre de formations. Alors, l'hétéroformation, qui est la formation qui recouvre la plupart du temps la formation professionnelle, qu'elle soit à distance ou en présentiel, hein, qui est une formation d'appui, soit en fait avec l'utilisation de l'instrument au niveau pédagotechnique, soit en relation avec une didactique disciplinaire. Et moi, je tiens à insister sur un point, c'est qu'il est souvent intéressant de passer de l'un à l'autre. On ne peut pas faire souvent les choses en même temps. Le deuxième point, c'est des situations de co-formation ou de formation entre pairs, c'est-à-dire une formation centrée sur un travail qui est plutôt collaboratif, avec un aspect confiance qui est extrêmement important, qui est accompagné par un formateur ou un tuteur. Et puis après, des dispositifs d'auto-formation qui sont sans présentiel et qui peuvent aller jusqu'à l'auto-formation de l'enseignant à partir de tutoriels ou de dispositifs de formation à distance. Pour les enseignants, pour nous, il y a deux profils qui ressortent. Il y a des profils pionniers qui sont des gens qui sont à l'aise avec les nouvelles technologies, qui sont souvent d'ailleurs de bons enseignants, qui sont à l'aise avec les technologies et la pédagogie, qui sont à l'aise dans la didactique de leur discipline et qui sont des personnes à inciter dans leurs avancées, mais en même temps sur lequel en fait il faut arriver et travailler et éventuellement travailler dans le cadre de la didactique d'une discipline. Ensuite, il y a des profils un petit peu différents qu'on va appeler apprenants volontaires parce qu'effectivement il y a des technos bloqués, donc là c'est encore autre chose. Et on va dire que nous on s'adresse surtout aux apprenants volontaires qui sont 80%, entre 75 et 80% des enseignants. Où là, le profil, il est très souvent de procéder par une action qui est une action dans un premier temps formative. Alors, elle n'est pas descendante. Pourquoi? Parce que c'est pas que du transmissif, c'est quelque chose qui permet d'aller vers un apprenant actif en le mettant dans des situations. Par exemple, il est hors de question de faire un cours sur un amphi sur l'utilisation d'un tableau numérique interactif. Il s'agit de mettre les enseignants dans des situations pédagogiques qui sont proches des leurs. Par exemple, on demande aux collectivités de livrer entre 5 et 6 tableaux numériques interactifs à la fois, ce qui permet de monter des activités de travaux pratiques directement et de confronter directement l'enseignant à partir de guide, en fait, de prise en main de guide d'usage qui s'appuie sur des situations pédagogiques réelles de l'utilisation des tableaux numériques interactifs. Et ensuite, de favoriser le dispositif d'interaction, c'est-à-dire de co-formation en interne avec un professeur référent informatique dynamique et allant, et enfin de leur donner les moyens d'auto-formation, c'est-à-dire qu'on ne va pas appeler, on ne va pas envoyer un mail à minuit à quelqu'un alors qu'on est en train de préparer son cours, on a besoin d'avoir une ressource qui vous dise comment je fais, comment je m'y prends et comment je vais réussir. Alors, le processus, je viens un petit peu de le dérouler, c'est un processus en plusieurs phases, mais finalement il y a quelque chose dont on ne parle jamais qui nécessite du temps. C'est un processus où il y a une formation d'abord que je caractériserais par de l'hétéroformation qui va influencer la conception de l'enseignement. Ensuite, le fait d'étayer les premières pratiques de l'enseignant avec des tutoriels et le fait de lui donner la capacité d'échanger entre pairs. Ensuite, le fait de l'aider à dépasser ses craintes devant les élèves parce que c'est un frein extrêmement important, c'est-à-dire de le mettre en situation de réussir et d'être capable d'indiquer aux élèves qu'il ne sait pas forcément. C'est-à-dire que les classes où ça fonctionne très bien, c'est l'enseignant et pas forcément l'expert. Il peut demander quelquefois à l'élève, l'élève est susceptible de l'aider. Ensuite, ne pas être seul et s'appuyer sur une équipe. Avoir, et ça il y a un besoin important d'un moment immersif suffisant qui leur permette de prendre en main l'instrument. Où là, il y a des échanges en fait, avec les pairs, voire des échanges avec des formateurs en fait, académiques ou des référents académiques. Et puis un retour de moment formatif de type hétéroformation qui associe davantage la valence, en fait, on va dire que j'ai appelé disciplinaire pour le second degré, mais la valence de relation avec la didactique propre à la discipline. Nous avons élaboré pour cela un outil qui s'appelle des médiafiches, qui est centré dans un premier temps sur les TNI, sur les tableaux numériques interactifs, et qu'on va bientôt centrer sur les tablettes, avec un modèle qui est le fait de rendre compte, de partir la réflexion à partir de lignes d'usage. Qu'est-ce qu'une ligne d'usage ? C'est une pratique instrumentée qui a été validée en relation avec les corps d'inspection et qui permet d'appuyer ensuite un travail qui est un travail là, plus de prise en main technique avec des comment faire. Ces comment faire vont permettre en fait, d'utiliser l'instrument. Donc les lignes d'usage permettent d'appuyer la réflexion à partir d'exemples disciplinaires différents qui sont issus du travail des GRED. Par exemple, là, on était sur la mémorisation. Comment la mémorisation du tableau numérique interactif permet d'introduire des nouveaux éléments pédagogiques dans une séquence. On la voit au travers de plusieurs disciplines.
Claude, pardon de te couper un petit peu, mais c'est... Voilà, je... Merci, pardon.
Eh bien, très simplement, alors deux choses. D'accord. Dans tous ces dispositifs qui sont en présence quelquefois hybrides ou qui sont distants, il est important d'avoir pour nous des dispositifs avec une granularité qui est de plus en plus fine, qui va permettre de différencier par exemple une fiche d'activité d'une fiche d'usage et de les utiliser indépendamment les unes des autres, y compris en fait des séances filmiques ou animées qui permettent à l'enseignant de voir quelle est la typologie de l'action qu'il devra réaliser. L'enjeu, c'est d'avoir et de participer à des conceptions plurielles qui permettent de partager ce qui a été réalisé et de les monter dans des autres scénarios pédagogiques. Avec
Merci.
Une petite conclusion, qui est qu'on pense que c'est l'association de l'hétéroformation, de la coformation et de l'autoformation qui permettra de créer des formations dynamiques et intelligentes pour nos enseignants. Je Bravo. Vous remercie.
Merci. Tu les as convaincus, regarde. Formidable. Merci beaucoup.